Radio de la Paix. Il est 12h. Le journal du midi. Mel Emmanuel.
C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité sur Radio de la Paix. L'archevêque métropolitain de Boisquet exhorte les Ivoiriens à entretenir la paix et à s'abstenir des discours politiques à caractère haineux. La ville de Bondoukou bénéficiera bientôt d'une centrale solaire photovoltaïque, un projet qui s'inscrit dans l'accroissement du mix énergétique ivoirien. Hors de nos frontières, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC dans sa quête d'une paix durable. Et dans la rubrique « L'invité de la rédaction », nous reviendrons sur la rencontre entre Moscou et Washington concernant la crise russo-ukrainienne. Ce sera avec David Silvan, professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut international du développement à Genève en Suisse. Bonjour à tous. L'archevêque métropolitain de Boisquet a exhorté tous les Ivoiriens, en particulier les hommes politiques, à faire de la paix leur priorité à l'approche du scrutin présidentiel prévu pour octobre 2025. Cet appel a été lancé samedi dernier lors de la célébration du jubilé d'or de sacerdoce du père Théodore Quadio à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro. Monseigneur Jacques Assenvoy-Iwa est au micro de notre correspondant sur place, François Gras.
Il dit octobre, dit élection. Je pense que c'est nous tous. Parce que si nous ne suivons pas les hommes politiques dans ce qui pourrait être un peu des discours un peu opposants, rien ne va se faire. Donc, il appartient à chacun d'accueillir les messages, de les discerner et puis de travailler pour la paix. Si chacun décide de faire de la paix son objectif principal, quel que soit le message qui peut venir et qui va à l'encontre de la paix, il restera dans la ligne de la paix et rien ne va se faire. Donc pour moi, c'est vrai, les hommes politiques, c'est nos acteurs, c'est eux qui nous accompagnent, c'est eux qui nous donnent les mots d'ordre. Mais je pense que chacun, parce que nous qui les écoutons aussi, nous devons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ne pas suivre, aveuglément, ce qui ne contribue pas à la réconciliation et à la paix. Nous voulons la paix, tout le monde veut la paix. Alors que chacun puisse se laisser guider par des sentiments de paix pour ne pas foncer tête baissée, même quand le message n'est pas pour la promotion de la paix.
À l'instant, l'archevêque métropolitain de Boisquet, Monseigneur Jacques Assenvoy-Iwa. Vie des partis politiques, tournée nationale de remobilisation et d'investiture des bureaux locaux de l'Union des femmes du RHDP. Arlette Badou, présidente de cette structure, était récemment dans la région du Cavali, précisément à Guiglo, pour remobiliser les femmes de son parti en vue de la présidentielle en octobre prochain. Une cérémonie s'est tenue dans ce sens vendredi dernier dans la cour du conseil régional du Cavali. Sur place pour Radio de la Paix, Ignace Thibaudji.
Elles sont 8 présidentes départementales et une présidente régionale en la personne de Brigitte Gueyba, épouse Kouan, à avoir été installée dans le cadre de cette première étape de la tournée nationale de l'UFRHDP à Guiglo. La présidente régionale installée a une idée claire du cahier des charges qui attend sa délégation.
Nous devons d'abord parcourir toute la région du Cavali pour prôner d'abord la paix. Et nous allons appeler à tous à une élection apaisée. C'est l'une de nos missions aussi.
Au cours de cette même tournée nationale, 45 autres femmes, présentées comme étant des pionnières du RHDP dans le Cavali, ont reçu des diplômes de reconnaissance pour leur loyauté. La présidente nationale de l'UFRHDP, Arlette Nguessan Badou, exhorte l'ensemble des femmes à mettre en avant la paix et les acquis du président Alassane Ouattara.
Chères vaillantes femmes, tout le processus électoral qui vient de démarrer, tout autre discours de haine, de division, de palabres, de crise, ne doit pas vous intéresser.
Enfin, se félicitant du seuil de développement de sa région sous le président Alassane Ouattara, le ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, coordonnateur principal du RHDP Cavali, a présenté les perspectives 2025 pour son parti.
L'élection d'octobre 2025 est l'élection du progrès contre le recul. C'est l'élection de la paix et de la stabilité.
Programmée sur 3 jours, la tournée nationale de remobilisation et d'investiture des bureaux locaux de l'Union des femmes du RHDP dans le district autonome des montagnes s'étend au Guémont et au Tonkoui. Ignace Thibaudji à Guiglo pour la Radio de la Paix.
D'un parti à l'autre, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, annonce réfléchir et proposer ses solutions aux récurrents problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Message de Justin Koné-Katinan, président du Conseil stratégique et politique du parti, donné jeudi dernier à l'occasion de la 35e tribune du PPACI à Abidjan.
La propriété, notamment immobilière, c'est la première et la dernière chose qui arrive avant la fin de la vie. Beaucoup de mauvaises pratiques s'installent puisque la concurrence est forte et elle devient déloyale. Et donc, trois éléments concourent à ça. La faiblesse, la rareté des parcelles, la concentration de la population face à une rareté donc des logements, donc des parcelles. Une législation foncière qui est faible, il faudra que nous corrigeons. Et le président a été touché par tout ce scandale qui a tout autour de ça. Et il a convoqué d'urgence le groupe parlementaire pour les envoyer en mission. Pour qu'ils prennent à bras le corps cette question avec d'autres députés, ils puissent se saisir de l'affaire et interpeller le gouvernement pour qu'une solution soit vraiment trouvée à ce problème qui est crucial.
Propos de Justin Koné-Katinan, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, rapporté par Ismaël Ango. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec le Centre de recherche politique d'Abidjan, CRPA, et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, a organisé les 25 et 26 février dernier la 8e édition de son colloque sur le dialogue interreligieux autour du thème religion et politique en période de conflit. Deux jours durant, acteurs politiques, guides religieux, acteurs de la société civile se sont retrouvés pour redéfinir le rôle de la religion dans la vie sociopolitique et la gestion des conflits. Didier Blé.
Ce colloque visait à promouvoir la réflexion, l'échange d'idées sur la manière dont religion et politique interagissent en période de conflit. Docteur Flomoki César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan.
Le conflit est souvent le fait de deux facteurs essentiels. Le pouvoir et la raréfaction des biens matériels et immatériels. En contexte de conflit, quelles relations religion et politique entretiennent-elles?
Miss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a insisté sur la mission fondamentale de la religion et souhaite l'implication de tous.
Le dialogue interreligieux est essentiel dans notre monde contemporain où les défis de la division et des conflits demeurent pressants. Et il est de notre devoir d'encourager l'échange et la compréhension, le respect mutuel.
Premier panel, fondement théologique, comment les religions appréhendent-elles leur rapport à la politique? Père Dominique Abalenio en ligne depuis Cotonou.
La foi illumine les chrétiens dans leur vie et dans leur engagement sociopolitique en leur offrant des critères nouveaux d'intelligence et d'action.
Rôle, responsabilité des guides religieux dans un contexte électoral, intitulé du deuxième panel, Imam Amadou Bamba de la communauté musulmane.
Nous intervenons dans les couples pour qu'il y ait plus de cohésion, d'harmonie, et aussi au niveau des communautés, dans nos quartiers, dans nos cités.
Le panel 3 a été un partage d'expériences religieuses sur la gestion des conflits à caractère politique. La plupart des intervenants ont exhorté les politiciens à opter pour la courtoisie dans le discours.
Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mamadou Sangafo Koulibaly, a procédé à la pose de la première pierre d'une centrale solaire de 50 MW à Bondoukou le 26 février dernier. Cette centrale solaire photovoltaïque sera bâtie sur une superficie de 85 hectares avec une production annuelle d'environ 87 100 MW. Une action qui s'inscrit dans le programme d'accroissement de l'énergie renouvelable et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le compte-rendu de Sindou Ouattara.
En janvier 2023, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec le groupe Amea Power une convention pour la réalisation en bout d'une centrale solaire à Bondoukou. Ce projet, dénommé projet Amea Power, comprend la construction d'une centrale solaire de 50 MW, l'installation d'un réseau d'évacuation d'énergie reliant la centrale au poste de source de Bondoukou. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ce projet s'inscrit dans un vaste programme de réalisation de plusieurs centrales solaires en vue d'accroître le mix énergétique et porter à 45% l'énergie renouvelable d'ici 2030.
Qu'il s'agit d'une douzaine de centrales qui seront construites pour nous donner au moins 678 MW. Cela nous permettra d'accroître notre mix énergétique.
Avec une production annuel estimé à environ 87 100 MW, plus de 380 000 ménages devraient avoir accès à l'électricité. Le ministre Mamadou Sangavo Koulibaly.
Le président de la République ambitionne d'atteindre chaque habitant de notre pays habite une maison électrifiée.
Pour le directeur financier du groupe Amea Power, David Falcon, ce projet est bien plus qu'une centrale solaire. C'est un engagement à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Solaire, mais il y a des engagements envers les générations futures et permettra d'éviter l'émission de 52 000 tonnes de CO2 chaque année.
Cette centrale solaire de Bondoukou, dont la durée des travaux est prévue pour 12 mois, est financée à hauteur de plus de 34 milliards de francs par la banque allemande KfW. Sindou Ouattara, Bondoukou, Radio de la Paix.
Un an après l'épisode des déguerpissements du district autonome d'Abidjan, des coalisés des victimes entendent saisir l'Assemblée nationale en vue d'une enquête parlementaire à l'effet de faire toute la lumière sur la question. Sur cette démarche, écoutons les explications de la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulchéri Balé.
Il n'est pas normal que les députés restent muets face à cette situation. Il y a une trentaine de sites qui ont été affectés. Il y a au moins 20 000 ménages qui ont été affectés. Et quand on sait que dans un ménage en Côte d'Ivoire, la taille moyenne est de 5 personnes, les 20 000 là nous donnent au moins 100 000 personnes affectées. Et si ces 20 000 ménages, il y a au moins 3 000 ménages propriétaires de leur maison. Et il y a eu des scolarités interrompues. C'est vraiment très grave ce qui s'est passé avec ces déguerpissements.
Madame Pulchéri Balé, hormis cet appel à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, votre ONG, qu'entend-elle faire dans les jours à venir?
Avant de dire ce qu'on a fait dans les jours à venir, il faut dire que ce qu'on a déjà fait, c'est de rassembler tous les groupes de déguerpis pour les aider à lutter pour leurs droits. On les a organisés, on les suit au quotidien dans leurs démarches. On est en train de finaliser un rapport qui va présenter la situation détaillée de chaque groupe. On a contacté la cellule gouvernementale interministérielle qui est censée faire le suivi de ces déguerpissements. Jusqu'aujourd'hui, le président de la cellule ne nous a pas encore reçu.
Pulchéri Balé, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, était en ligne avec Soro Adams. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, initie depuis 2020 un appel à projet à l'attention de la femme dans les 93 États membres. Elle octroie des subventions allant de 9 à 65 millions de francs CFA pour les projets sélectionnés. Pour informer et outiller la gente féminine ivoirienne, la Commission nationale de la francophonie a organisé un atelier à son siège à Abidjan. Là-dessus, écoutons Bernice Nguessan, secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie.
Nous mettons à la disposition des Ivoiriens les opportunités que nous pouvons trouver au niveau de la francophonie. Depuis 2020, il y a eu le Covid, l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place un fonds de solidarité à l'intention des femmes. Et chaque année, il y a des appels à projets qui sont lancés à partir du mois de mars. Et on donne la possibilité aux femmes dans les 93 pays membres de la francophonie de proposer des projets pour obtenir des subventions pour pouvoir s'autonomiser. Les montants de subventions, ça va, on va dire, de 9 millions à 65 millions de francs CFA. Donc, on va dire que 65 millions auxquels vous aspirez, le projet ne va pas payer entièrement les 65 millions. Le projet va vous donner 80% des 65 millions et vous devez donner les 20% qui restent comme votre contribution à la réalisation du projet que vous soumettez.
En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il existe déjà des projets qui ont été financés par l'OIF? S'il y a des exemples.
Oui, il y en a eu déjà en Côte d'Ivoire. Moi, des femmes marieuses de Soubré. Il y a des jeunes filles en situation de vulnérabilité au niveau d'Adjamé qui en ont bénéficié.
C'était la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie, Bernice Nguessa. Hors de la Côte d'Ivoire, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la République démocratique du Congo dans sa quête d'une paix durable. Lors de sa visite à Beni, il a souligné l'importance cruciale de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et au respect de l'intégrité territoriale du Congo. Lacroix a insisté sur le besoin urgent de retirer les forces étrangères présentes dans la région, en particulier celles soutenant le groupe M23 afin de permettre un environnement de paix propice à la réconciliation et à la reconstruction. Retour en Côte d'Ivoire et à présent, dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction. David Sylvan est professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut international du développement à Genève en Suisse. Il analyse les enjeux de la récente rencontre entre Washington et Moscou sur la crise russo-ukrainienne en Arabie Saoudite. David Sylvan est interrogé par Ismaël Ango.
Monsieur David Sylvan, bonjour.
Oui, bonjour.
Les Américains et les Russes se sont rencontrés après des relations froides. Est-ce que cette relation change vraiment quelque chose pour la guerre en Ukraine?
Le président Trump voudrait vraiment arriver à un arrangement avec Monsieur Poutine derrière le dos des Ukrainiens. Ce qu'il voudrait faire serait effectivement de promettre à Monsieur Poutine qu'il pourrait garder le contrôle presque de tous les territoires en Ukraine qu'il avait déjà arrachés pendant quelques dernières années de guerre, et qu'il y aurait des promesses à propos d'une action de la part des Ukrainiens à l'égard de l'OTAN. Ils voudraient probablement envoyer des soldats européens pour servir comme des garde-fous du côté, etc. Évidemment, la question, c'est savoir si d'une part, Poutine serait satisfait avec seulement, entre guillemets, le territoire qu'il avait déjà gagné, et si Trump peut donc arriver à convaincre les Européennes et les Ukrainiennes à faire semblable, et ça, je le doute fortement.
Le président ukrainien Zelensky a dit qu'il n'était pas content qu'on parle de son pays sans l'inviter. Que pensez-vous de sa réaction?
C'est complètement raisonnable. Après tous les morts et les blessés et tous les territoires détruits de la part des Ukrainiens, il ne peut pas participer. C'est quelque chose qui rappelle donc aux pires années de colonialisme au fin 19e, début 20e siècle. Ça ne peut pas arriver à quelque chose.
Est-ce que l'Europe a encore son mot à dire dans la résolution de cette crise?
Je crois que l'Union européenne a certainement à dire. Normalement, on imaginerait que l'OTAN serait donc l'interlocuteur classique, parce qu'il s'agit d'un problème militaire, de sécurité, etc. Mais étant donné que les États-Unis sont membres très importants de l'OTAN, eux, ils ont un droit de veto. Ce qui va se passer probablement, c'est que donc l'axe et l'emphase de l'aide européenne envers l'Ukraine va changer et être centré à l'avenir côté l'Union européenne. Il faut ajouter à cet égard-là que déjà on a vu que, par exemple, que l'Union européenne a élargi encore une fois donc les sanctions contre la Russie. Et je crois qu'au fur et à mesure, l'Union européenne serait de plus en plus marquée pour participer dans ce combat aux côtés des Ukrainiennes.
Pourquoi l'Union européenne a-t-elle décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie?
Eux, ils considèrent que la Russie pose une menace vraiment réelle et presque imminente aux Européens. Il faut se rappeler que donc Poutine, effectivement, a regretté publiquement la désintégration de l'ancienne Union soviétique. Il a dit que c'était, et je cite, « la catastrophe la plus grande géopolitique de tout le XXe siècle, y compris, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale ». Ça veut dire que si on habite, par exemple, en Estonie, en Lituanie, etc., ou, par exemple, si on habite en Suède ou en Finlande ou ailleurs, la Russie, maintenant, pose vraiment comme une menace. Parce qu'il faut se rappeler que, jusqu'il y a quelques années, il n'y avait jamais eu, depuis 1945, des invasions des territoires par une force armée en Europe.
Parmi les sanctions de l'Union européenne envers la Russie, l'interdiction d'importer de l'aluminium, des mesures aussi visant à limiter les exportations de pétrole russe. Comment cela peut affecter les relations commerciales entre l'Union européenne et la Russie?
Disons, les relations entre l'Union européenne et la Russie sont vraiment très mauvaises pour l'instant et ça va probablement empirer encore parce que vous avez lu probablement que récemment, les Russes sont soupçonnés d'avoir essayé de couper les câbles qui relient certains pays aux d'autres pays, donc les câbles informatiques qui transmettent des données d'ordinateur, etc.
La Russie est d'accord pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, mais pas l'OTAN. Pourquoi cette différence?
Ils pensent que si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, dans ce cas-là, il serait protégé contre eux. Mais il faut se rappeler également que derrière tout cela, c'est le fait que selon Poutine et certains de ses conseillers, l'Ukraine n'est pas même en état. C'est quelque chose qui est fictif en quelque sorte. Donc ils ont dit que d'une part, c'est un pays fantaisiste et d'autre part, que c'est truffé avec des nazis, etc. Effectivement, on a là donc la militarisation de la nostalgie pour l'ancien empire colonial soviétique. Il est considérer que c'est une attaque contre leur notion de la démocratie en Europe de l'Ouest et l'idée de la démocratie libérale en quelque sorte. Déjà, on a vu énormément de tentatives de la part des Russes à s'immiscer dans les élections européennes, etc., comme ils ont déjà fait aux États-Unis à plusieurs élections.
Monsieur David Da Silva, merci.
Merci à vous.
Vous écoutiez l'entretien avec l'invité de la rédaction, David Silvane, professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales à l'Institut international du développement à Genève en Suisse. Passons au rappel des titres de ce journal. L'archevêque métropolitain de Boisquet exhorte les Ivoiriens à entretenir la paix et à s'abstenir des discours politiques à caractère haineux. Et puis hors de nos frontières, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC dans sa quête d'une paix durable. En retour à l'information 15h, pour l'heure, je vous laisse avec Jean-Mélène Bitti pour la revue de presse.
Bonjour à tous, à 7 mois de l'élection présidentielle.